R22, tout le monde.
Antenne, bureau de déposition.
Alors, bonjour et bienvenue sur la radio des zones R22, tout le monde. Pour la deuxième journée de la session organisée plateau radio, bureau de déposition et les invités spéciaux, les étudiants droit master 2, droits fondamentaux et liberté sur la liberté des droits fondamentaux. Et nous avons ici aujourd'hui aussi la présence de Julie Van Nesland, qui est juriste au fait sur les contrats spéciaux, comment est-ce que les contrats spéciaux doivent se faire dans les milieux. Et nous avons aussi la présence de Victor, qui travaille aussi à la radio R22, et Simon. Et hier, nous avons fait une visite récapitulative sur la thématique de la journée d'hier. Nous avons vu l'intervention de Julien Serussi, qui est sociologue et qui porte un projet pluridisciplinaire au sein de la CPI, qui est la Cour pénale internationale, et qui nous a fait une visite au fait de son exposé et sur son projet apporté à deux avec un autre artiste sur comment soulever les thématiques liées au fait à la Cour pénale internationale qui n'ont pas recours à des solutions dont la Cour fait face, notamment les problématiques liées à l'Afrique, par exemple sur le Congo, dont il nous a expliqué le contenu sur son livre Borogo. Et ensuite, nous allons présenter la thématique de la journée d'aujourd'hui qui va se passer sur la présentation des recherches dont les étudiants du droit Master 2 qui vont nous expliquer sur les thématiques liées à nos difficultés, liées à nos recherches. Et je laisse la parole.
Comme disait Mamie Kaba, on élabore à plusieurs périodes et en plusieurs lieux ce format qu'on appelle séminaire plateau radio œuvrer les limites du droit. À partir d'un problème, d'une situation qui réside dans les fondements d'une œuvre qui s'appelle Bureau des dépositions, exercice de justice spéculative, et qui est une œuvre qui trouve naissance dans une pratique d'écriture de lettres de déposition à plusieurs depuis le patio solidaire, qui est un lieu occupé à l'Université de Grenoble. Et ces lettres de déposition font état des violences produites par les politiques migratoires, sont écrites au jeu et adressées à des personnes qu'on considère être les responsables de ces violences. Et en février 2019, 10 personnes qui avaient contribué à ces écritures de lettres de déposition se sont réunies et ont commencé une résidence de création au Magasin des Horizons, Centre National d'Art Contemporain à Grenoble, pour la création d'une œuvre immatérielle, processuelle, infinie et performative qui a pris le nom de Exercice de justice spéculative. Les fondements de cette œuvre résident justement dans l'écriture encore de ces lettres et la performance lue de ces lettres dans un format quelque part processuel, c'est-à-dire de déposer les lettres devant un micro, devant une scène vide, qui est pour nous une justice qui manque au vu des violences dont on fait état dans ces lettres. Mais les lettres sont aussi tout le temps mises en débat entre nous, et elles font l'objet d'une réécriture, et c'est en ça que c'est une œuvre processuelle, parce qu'elle n'est pas arrêtée et finie. Chaque co-auteur est donc performeur exclusif. Et nous avons signé ensemble un contrat de co-auctorialité qui dit que l'œuvre n'a lieu que quand nous sommes tous réunis. Entre mai et février 2019, l'un d'entre nous a été en mesure d'éloignement dans le cadre des politiques de Dublin, et nous avons dû arrêter la résidence de création, ce qui a créé toute une série de problèmes, c'est-à-dire que le Centre national d'art contemporain avait réservé un espace, nous avions fait appeler à des témoins pour des regards extérieurs qui viennent contribuer à l'œuvre, nous aider, etc. Toutes ces personnes ont été donc décommandées, ça a engagé toute une problématique économique aussi. Et nous avons en fait réalisé que œuvrer en co-auctorialité, ce qui est notre droit, c'est-à-dire on a le droit d'avoir ce contrat de co-auctorialité, de lever des financements, de reverser les droits d'auteur à chacun et chacune des co-autrices, co-auteurs. Mais en fait, ces mesures d'éloignement nous ont mis en situation d'empêchement et on a situé une sorte d'atteinte à l'intégrité de notre œuvre à ce moment-là. Et c'est donc pour ça qu'on essaye de travailler avec des étudiantes, étudiants, chercheuses, chercheuses en droit, mais aussi des artistes, chercheurs, Toutes sortes de personnes qui seraient aujourd'hui inquiétées par comment cette situation des politiques migratoires est en train d'émerger sur les coutumes et les pratiques du quotidien qui en fait créent pour nous des empêchements et des inquiétudes notoires. Et donc c'est pour ça qu'on a invité vous, les étudiantes et étudiants du Master 2 en droit fondamental, à nous aider dans notre problème. Donc je vous repasse la parole.
Donc c'est juste pour présenter un peu les plans de comment est-ce que nous allons prendre la parole et qu'est-ce qu'on va dire. Alors déjà, il faut savoir que ce sont des recherches qui ont été menées par des étudiants. Et donc nous restons ouverts à des contributions extérieures pour améliorer la qualité de nos recherches. Donc s'il y a des éléments que vous aimeriez bien apporter comme point pour éclairer, nous sommes vraiment intéressés à pouvoir les écouter. Alors dans les plans, nous allons aborder sous l'angle droits fondamentaux. Mon collègue Albert aura le temps de vous expliquer c'est quoi les droits fondamentaux et qu'est-ce que ça regorge. Et après, dans le cadre des droits fondamentaux, nous allons interroger trois instruments juridiques internationaux contraignants. Et l'un d'eux n'est pas contraignant, donc c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Carla va parler du PIDPC. Ouais. Moi, je vais parler du PIDESC. Et Arbert va parler de la Convention de Genève de 1951. Ensuite, nous allons entrer dans le cadre national où nous allons aborder la question de la liberté des créations. Jade va parler de cette loi. Et enfin, on va aborder la question des perspectives juridiques pour montrer qu'il y a des voies, mais qu'il y a aussi des blocages et que l'objectif, en fait, c'est de pouvoir réfléchir ensemble de comment est-ce que ces perspectives peuvent nous aider à améliorer en fait la situation des cas qui sont posés. Donc merci, je passe la parole à Arbert.
Merci. Donc en ce qui concerne les droits fondamentaux, sont l'ensemble de droits subjectifs primordiaux de l'individu assurés dans un état de droit. C'est une notion abstraite, donc il n'existe pas de définition faisant l'unanimité. Les libertés fondamentales ou droits fondamentaux représentent juridiquement l'ensemble de droits ou libertés essentielles pour l'individu. Elles recouvrent en partie les droits de l'homme au sens large. Ce sont des droits qui sont inhérents à l'être humain. Dans la doctrine juridique, le concept est relativement récent et il existe plusieurs façons d'appréhender la fondamentalité d'un droit ou d'une liberté. L'idée même de fondamentalité revient à prioriser ou hiérarchiser les droits ou libertés en fonction de leur essentialité. La question qui se pose, c'est comment nous sommes protégés en ce qui concerne ces droits. On est protégé au niveau étatique par les lois en vigueur relatives aux droits de l'homme, par exemple, au niveau régional par le CEDH, au niveau international aussi, comme la Convention de Genève de 1951 relative au statut de réfugié ou la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sur la définition qui donne la Convention de Genève concernant les réfugiés, c'est une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence habituelle, qui craint avec raison d'être persécutée du fait de son appartenance communautaire, de sa religion, de sa nationalité, de sa appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et qui ne peut pas ou ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou de y retourner en raison de cette crainte. La Convention de Genève, c'est un texte de droit international qui définit à la fois qu'est-ce que c'est un réfugié, comme j'avais dit tout d'abord, et quels sont les droits en fond, les obligations des États signataires à son égard. Un article très intéressant, on peut citer, c'est l'article 14, qui nous dit « propriété intellectuelle et industrielle en matière de protection de la prétend de surveiller notamment d'invention, dessin, modèle, marque de fabrique, non commercial et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, tout réfugié bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle. Donc, maintenant je vais passer la parole à Carla qui va parler d'un autre mécanisme international.
Donc, moi, j'ai commencé par vous parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été adoptée le 10 décembre 1948 par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Donc, je rappelle, l'ONU, c'est une organisation internationale à vocation universelle qui a été créée en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, afin de rétablir et d'assurer la paix au niveau international. Donc, aujourd'hui, il y a pratiquement la totalité des États dans le monde qui font partie de l'ONU, dont l'une des missions principales, comme je viens de le dire, c'est de garantir les droits des individus à travers divers instruments juridiques, et notamment donc, cette déclaration universelle des droits de l'homme, qui n'est, comme son nom l'indique, c'est une déclaration. Donc elle n'a pas de valeur contraignante, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas imposer d'obligations aux États. En revanche, elle a une force symbolique très très forte. Elle protège de nombreux droits, comme par exemple l'article 1er de cette déclaration qui dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. L'article 3 aussi énonce que tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. On a aussi l'article 14 qui peut nous intéresser ici, qui énonce que devant la persécution, toute personne a le droit de rechercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Ou encore l'article 25 qui énonce que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille par divers moyens. Donc cette déclaration, malgré son caractère non contraignant, s'est vue accompagnée de pactes qui, justement, l'ont rendue contraignante et imposent des obligations aux États qui les ont signés. Donc le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Moi, je vais vous parler du premier, donc, qui a été adopté le 16 décembre 1966 à New York. C'est un pacte qui vient garantir ce qu'on appelle en droit, c'est les droits de première génération, c'est-à-dire des droits civils et politiques, tels que le droit à la vie, le droit d'un individu, d'être protégé face à la torture, le droit à un procès équitable, le droit d'association et de réunion, ou encore la liberté d'expression. En l'espèce, j'avais envie de vous parler de cette liberté d'expression, car elle paraît menacée dans le cadre du Bureau des dépositions. L'article 19 du pacte énonce que nul ne peut être inquiété pour ses opinions, et surtout que toute personne a droit à la liberté d'expression, que ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. Donc, nous voyons donc que cette liberté d'expression, justement, ne doit pas rencontrer de restrictions concernant les frontières ou la forme qu'elle veut prendre pour passer un message. Pour finir rapidement, deux autres droits peuvent être menacés concernant ce pacte. Il s'agit du droit de réunion et droit qui prévoit l'égalité devant la loi et donc la non-discrimination devant la loi. Maintenant, dans le cadre des droits qui peuvent être menacés pour le Bureau des dépositions, le pacte international relatif aux droits civils, économiques, sociaux et culturels comporte des articles qui semblent assez pertinents. Et je vais passer la parole à Merveille pour vous les expliquer.
Merci Carla. Peut-être pour revenir d'abord sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a deux observations qu'on pourrait tirer de ce que tu as dit. Premièrement, c'est que quand la déclaration est lue, on parle de toute personne. On n'a pas une distinction qui est fondée sur... Enfin, il n'y a aucune distinction par rapport à après la lecture au fait des articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais dans le constat et dans les faits, on se rend compte que voilà, il y a des gens qui sont hommes, il y a ceux-là qui s'appellent migrants, il y a pire encore, on a des sans-papiers. Et c'est là, au fait, qu'on voit déjà qu'il y a des inégalités et que à la lecture même de cette déclaration et par rapport à l'observation générale dans la vie de chaque jour, on se voit que au regard de la déclaration, tout le monde n'a pas cette égalité et que les lois sont organisées pour maintenir en fait cette inégalité. Donc dans les cadres du Bureau des dépositions, c'est une réalité qu'on vit. Et malheureusement, on constate clairement que les lois dans lesquelles nous vivons, enfin, qui nous régissent, je suis désolée, ne vont pas au fait dans la logique de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est l'un des ressentis même. Pour moi, je pense que c'est un ressenti après une simple lecture. Et deuxièmement, c'est que les gens pensent que quand on parle de droits de l'homme, C'est un droit spécifique et souvent le droit de l'homme est relié à la liberté d'expression, démocratie, état des droits. Mais ce n'est pas le cas quand on parle des droits de l'homme, c'est l'ensemble des droits qui régissent la vie des gens dans tous les domaines. Et donc, si on doit parler liberté des créations ou quoi, d'abord on doit s'assurer qu'il y a le droit de l'homme qui est garanti. Parce que ce sont des êtres humains et ils ont des droits qui leur sont attachés dès la naissance jusqu'à la mort. Et je crois même après la mort. Donc ça, c'était des observations par rapport à, enfin, un rajout par rapport à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et moi, je devais parler du pacte international des droits civils, du pacte international, pardon, du droit économique, social et culturel. L'intitulé est clair. Ici, on parle de la culture, on parle du social et on parle de l'économie. Donc, c'est le cadre même dans lequel nous nous retrouvons avec le bureau de déposition qui est plus dans le domaine culturel. Je peux me permettre de vous caser là-bas. Oui, mais en fait, on se rend compte que, d'abord, comme Carla l'a dit, c'est un pacte qui assure en fait les droits de la deuxième génération. Avec le pacte dont Carla a parlé, c'était les droits de la première génération, c'est plutôt les droits civils. Et le pacte, c'est le pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, c'est plutôt les droits de la deuxième génération. Ça ne signifie pas qu'ils sont moins que ceux du premier pacte. C'est juste par rapport à une classification et tous ont la même valeur. Et ça, il faut les retenir. C'est vrai que la doctrine crée un débat dessus pour essayer de hiérarchiser, mais en réalité, il n'y a pas de hiérarchie derrière la présentation de ces instruments qui sont contraignants. Et il faut signifier que la France a ratifié ces pactes et donc elle est contraignante au fait, sur le territoire français. On est obligé de respecter le contenu du pacte tel qu'il est écrit. Donc ça, c'est aussi important à souligner. Alors, en vertu du pacte, il faut savoir que les États, ils ont en fait l'obligation de promouvoir le bien-être général à travers les législations qui sont mises en œuvre. Ça, c'est important de souligner qu'en ayant ratifié le pacte, les États ont l'obligation de garantir le bien-être à tous les membres de la communauté. On n'a pas distingué sans-papiers, migrants, être humain normal, français, italien ou congolais, je ne sais pas, mais on a dit toute personne. Donc il faut toujours revenir sur le fait qu'il n'y a pas de distinction quand on lit ces instruments. Il n'y a pas de distinction, mais malheureusement, dans la vie de chaque jour, on se rend compte qu'il y a ceux-là qui portent des étiquettes et qui leur rend la vie noire, quoi, si je vais utiliser le mot noir pour dire péjoratif. Alors, deuxièmement, c'est que les États, ils ont l'obligation de respecter, de protéger et de mettre en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des individus qui relèvent en fait de leur juridiction. Demandeurs d'asile, réfugiés, nationaux, quel que soit ce que vous êtes, du moment où vous êtes dans un pays qui a un gouvernement et qui a des lois qui régissent cette vie-là, vous avez en fait le droit et cet État a l'obligation en fait de faire respecter et de vous protéger par rapport à ces droits. Alors, il est aussi important que le pacte recommande aux États de pouvoir adopter des mesures, mais qui ne soient pas des mesures rétrogrades. Il faut que des mesures qui sont mises en place puissent être des mesures qui permettent le bien-être général et qui puissent aussi assurer en fait l'émancipation des personnes qui y vivent. On constate très bien que par rapport aux demandeurs d'asile, ce n'est pas le cas et il y a des cas qui peuvent être évoqués pour illustrer en fait ces difficultés. Par rapport aux informations importantes par rapport au pacte, quand je parle des pactes, je parle toujours du pacte des droits économiques, sociaux et culturels, c'est que les migrants en situation irrégulière, par exemple, comme étant un groupe vulnérable, ils peuvent prétendre à ce que leurs droits économiques, sociaux et culturels bénéficient d'une protection particulière. Et dans le cas du bureau des dépositions, nous sommes avec des migrants ou des demandeurs d'asile qui sont actifs par rapport à une réalité donnée et qui se situe aussi par rapport à la loi concernant la liberté des créations que Jade va aborder. Et donc là, on voit que s'il faut une législation, cette législation doit tenir compte des réalités particulières dans lesquelles les membres du bureau des dépositions s'y retrouvent. Donc, je vais passer la parole à Jade pour essayer de développer par rapport à ça.
Merci Merveille. Alors donc j'ai parlé de la loi relative à la liberté de création qui date de 2016 et qui effectivement nous semble pertinente dans le cas du bureau des dépositions. Donc pour introduire un petit peu la loi, je vais citer Arnaud Montas qui est un maître de conférence à l'Université Bretagne Occidentale qui a écrit un commentaire intitulé « Le juge et la liberté de création artistique » qui est paru en 2018 dans Dalloz, les cahiers de la justice. Donc je vais le citer. Alors, la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine a consacré le principe selon lequel la création artistique est libre. Ce positionnement législatif semble valider l'idée, déjà largement répandue, que la liberté de créer doit être érigée en principe, tandis que la censure doit demeurer à l'état d'exception. Cette nouveauté, bienvenue, pourrait constituer le point de départ d'un changement de positionnement du discours juridique sur l'art et ainsi mettre au service des artistes un outil juridique de défense de la création. Ce faisant, la loi permet de penser désormais la liberté de création comme un droit subjectif de l'artiste, tout à la fois autonome et opposable. Voilà, donc ce qu'il faut d'abord savoir par rapport à cette loi, c'est que avant 2016, la liberté de création artistique était consacrée par la liberté d'expression, donc un droit, comme on en parlait Merveille et Carla, qui était reconnu dans plusieurs instruments de protection des droits de l'homme au niveau international, donc par exemple l'article 10 ou de la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi donc consacré au niveau national avec l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et en fait, avec cette loi de 2016, la liberté de création artistique est devenue autonome. Donc c'est un droit à part, et il n'est plus dépendant de la liberté d'exception. Et cela est avantageux, car comme le précise Arnaud Montas, donc je vais encore le citer, en fait, la liberté de création artistique peut être regardée comme le reflet de la liberté d'opinion de l'artiste, alors que la liberté d'expression, dans son acceptation européenne, semble cantonnée à la protection de la liberté des discours et n'embrasse donc pas complètement la liberté de création artistique, puisque presque infinie, le champ de la création artistique est plus large que celui de la seule expression, qui en est certes une modalité. Voilà. Donc, pour définir un petit peu aussi la situation de bureau des dépositions, donc je vais apporter des définitions à l'œuvre collaborative. C'est le Code de la propriété intellectuelle dans ses articles L113-1 à L113-3 qui donne la définition d'une œuvre collaborative. Donc je cite « Édit de collaboration, l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ». Et en particulier, l'article L113-2 dit que l'œuvre de collaboration est la propriété commune des co-auteurs. Les co-auteurs doivent exercer leur droit d'un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Ensuite, on peut aussi se demander qu'est-ce qui relève du domaine de l'art, pour un peu poser des définitions juridiques finalement à notre cas d'espèce avec Bureau des dépositions. Donc selon l'article L111-2 du Code de propriété intellectuelle, l'œuvre est réputée créée indépendamment de toute divulgation publique du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. Et donc en fait, la preuve de la conception de l'œuvre, ce sont les éléments qui sont matériels et formels relatifs à l'œuvre. Donc par exemple, des travaux préparatoires, comme dans notre cas, le fait de se retrouver, de participer à des représentations, voilà. Et donc, ce n'est finalement pas au juge de déterminer ce qui ressort du domaine de l'art. Et en fait, pour se prévaloir de la liberté qui est attachée, donc la liberté de création, l'auteur de l'œuvre doit seulement prouver que donc, sa création relève du domaine artistique. Donc finalement, comme je l'ai dit avant, c'est vraiment l'œuvre elle-même qui apporte la preuve du fait de création artistique. La preuve de l'existence matérielle de l'œuvre donc, doit être reliée au monde de l'art. La preuve peut aussi relever du fait que l'auteur est reconnu comme artiste. Et en fait, le juge va reconnaître l'œuvre d'art grâce au faisceau d'indices, donc en se basant sur ces plusieurs éléments. Donc une fois que l'œuvre est considérée comme une œuvre d'art, elle sera protégée par le Code de propriété intellectuelle. Voilà, donc j'ai maintenant passé la parole à Charlotte qui va nous parler des perspectives concernant le bureau des dépositions.
Merci. Donc on a évoqué tous les problèmes qu'on avait. Maintenant, on a aussi, nous, essayé de trouver des solutions, puisqu'il en existe, bien qu'elles soient compliquées à trouver. En fait, ce qu'on cherche aussi, c'est trouver des perspectives de régularisation des co-auteurs, des artistes qui sont demandeurs d'asile. Et que par le biais de cette œuvre, en fait, on puisse régulariser ces demandes, bien que je pense, comme vous le savez tous, dans un contexte de politique migratoire qui est de plus en plus restrictif face à des demandeurs d'asile qui se font débouter de leurs demandes. Et que donc on a trouvé plusieurs perspectives possibles, en fait, grâce au bureau des dépositions qui pourrait éventuellement aider ces co-auteurs. Il y en a deux. Le passeport talent et une régularisation du titre de séjour en tant qu'artiste. Donc la première, le passeport talent. Donc c'est une possibilité qui existe depuis 2016 et qui est délivrée à un ressortissant donc étranger d'un pays tiers à l'Union européenne et qui exerce une activité professionnelle, salariée, donc notamment artistique, littéraire, et qui doit être titulaire d'un contrat de plus de 3 mois avec une entreprise dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit. Cependant, il y a évidemment des difficultés, puisque cette personne doit avoir obtenu un diplôme équivalent d'un master 1, tout en sachant que les reconnaissances d'équivalence des diplômes entre la France et les pays tiers, surtout au-delà de l'Europe, c'est compliqué. Donc on a évacué cette première possibilité. La seconde, ça s'appelle le changement de statut de séjour en tant qu'artiste. Donc, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une carte de séjour qui porte la mention profession artistique et culturelle, donc toujours pour les ressortissants étrangers des pays tiers à l'Union européenne, et qui doivent être donc artistes-interprètes, donc auteurs d'œuvres littéraires, artistiques, et pareil, titulaires d'un contrat de plus de 3 mois avec une entreprise dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit. Donc, ce qui est éventuellement possible dans notre cas, puisque le bureau des dépositions signe avec plusieurs institutions artistiques, culturelles, des théâtres, etc. Sauf que dans la pratique, encore une fois, on voit que effectuer un changement de statut au cours de la procédure de demande d'asile, c'est compliqué dans les faits, puisque le droit des étrangers, c'est un droit qui catégorise beaucoup et qui aime bien mettre quand même des étiquettes sur les personnes. Et ce qui fait que c'est quand même, on recommande de faire de demander ce titre de séjour en tant qu'artiste dès le début de la procédure. Et c'est pour ça que pour l'instant, ce sont les perspectives qu'on a trouvées, mais on continue nos recherches, quoi. Et je crois que tu voulais rajouter quelque chose, Merveille.
Oui, au fait, il y avait une autre perspective, mais déjà, il faut savoir que ça ne concerne pas la France, parce qu'elle est pas, elle n'a pas ratifié cet instrument. C'est la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Malheureusement, la France n'a pas ratifié cette convention. Et donc, le comité a récemment a adopté en fait une observation générale. Et cette observation dit, je vais lire, « Les comités a souligné dans cette observation générale que, quelles que soient les modalités du séjour, un travailleur migrant ne peut jamais être privé en raison de l'irrégularité de sa situation, des droits fondamentaux qui lui confèrent la troisième partie de la convention. » Bon, ça, on pourra toujours les lire à côté. Et au fait, l'observation numéro 2 de 2013, c'est une observation de 2013, l'objectif pour elle, c'était de guider au fait, la conduite des États envers au fait, les travailleurs migrants en situation irrégulière, en particulier pour ce qui concerne la non-discrimination, la protection contre la violence, la protection contre l'arrestation et les détentions arbitraires, la protection contre les traitements inhumains, la protection dans le cadre des procédures d'expulsion et la protection contre l'exploitation par le travail, et aussi le droit à la sécurité sociale, le droit de recevoir des soins médicaux d'urgence et le droit à l'éducation. Mais il faut toujours revenir sur cette contrainte. La France n'a pas ratifié cette convention et donc cette observation qui, à notre avis, marque un grand avancé au fait par rapport à la situation des migrants irréguliers en France. Elle n'est pas applicable et donc c'est encore une perspective mais qui ne peut pas aboutir parce qu'elle n'est pas ratifiée par la France. Je souligne aussi que c'est une convention de 90 et ouais, c'est un texte de l'ONU. Voilà, merci.
Moi, j'aimerais avoir une précision en droit. Qu'est-ce qui caractérise les pays tiers dont tu parles?
Oui, les États considérés comme tiers sont les États qui ne font pas partie de l'Union européenne. L'Union européenne étant aujourd'hui à 28 États, il me semble. 27. J'en ai rajouté un, trop rapidement. Effectivement, post-Brexit. Moi, je voulais juste souligner, déjà vous remercier vivement pour votre travail. D'abord, pour expliquer et puis de nous accompagner aussi dans les difficultés que nous rencontrons en tant que co-auteurs, co-autrices d'une œuvre qui est prise aussi dans les questions de politique migratoire. Et en fait, moi, j'ai l'impression que ce que vous soulignez depuis les droits de l'homme et puis de ce qu'on vit, nous, en tant que co-auteurs, co-autrices, il y a un décalage qui est fondamental et qui est une tension à partir de laquelle, en fait, on aimerait... Enfin, que l'on vit, en fait. Alors, cette tension, c'est la tension entre, d'une part, le fait, je rappelle que la France a été la première nation au monde à reconnaître officiellement le droit d'asile en 1793, donc à la suite de la Révolution française, mais que très rapidement, ce droit d'asile a été placé sous un autre principe qui est celui de la souveraineté. Et donc, au nom de l'ordre, de la sécurité publique, de la souveraineté du peuple, de la souveraineté nationale, il y a des atteintes qui sont portées régulièrement au droit d'asile. Et je voudrais souligner que, puisqu'on est en février de l'année dernière, la France, par exemple, a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour traitement dégradant d'un mineur afghan dans la jungle de Calais en 2016. Et où la France justifiait un certain nombre d'absences de soins apportées à ce mineur au nom précisément de la souveraineté, du fait qu'il était illégal, etc. Et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour traitement dégradant et a fait valoir aussi le rôle des droits de l'homme et puis du droit d'asile. Et donc là, il y a une tension que l'on vit en permanence, qui est celle entre finalement l'ordre national et puis des valeurs internationales, et qui ont fait dire à plusieurs commentateurs, qui vont de Hannah Arendt et même avant Hannah Arendt à Marx, qu'en fait les droits de l'homme, c'est des coquilles vides, et que ce qui prime dans le monde dans lequel on vit, c'est les droits des nations. Et où donc, est-ce qu'on se donne pas juste une bonne conscience morale autour de ces droits de l'homme, et est-ce que nous, en s'appuyant sur les droits de l'homme, est-ce qu'on s'appuie en fait sur quelque chose? Alors, ce que vous nous apprenez, c'est que oui, et la preuve, la France a été condamnée en février dernier, en 2019, par la Cour européenne des droits de l'homme, et peut-être que ce jugement a permis de transformer un certain nombre d'éléments. Mais effectivement, on se trouve au cœur de cette tension, qui est une tension difficile, non pas à résoudre, mais aussi comment habiter cette tension et comment faire valoir un certain nombre d'éléments qui viennent contrer le principe de la souveraineté, quoi. Et donc moi, là, ça aboutit donc à une question que je voudrais vous poser. Nous, si on constate des atteintes à notre œuvre, on se dit qu'on pourra peut-être faire une saisine du tribunal administratif. D'abord pour attaquer les OQTF, contester les OQTF et puis parler de la difficulté qu'on a de créer notre œuvre. Comment arriver à la Cour européenne des droits de l'homme? Comment aussi, ou pas d'ailleurs, mais comment faire entendre à l'échelle nationale et peut-être dans des cours supérieurs des normes qui visiblement ne sont pas autant prises en compte que nous le souhaiterions ou qui sont carrément bafouées à tel point que la France a même été condamnée dans des affaires qui traitent de personnes dites étrangères, quoi. Voilà.
Je vais juste répondre pour commencer sur la question de comment saisir la Cour européenne des droits de l'homme. C'est justement un peu compliqué parce qu'il faut, pour pouvoir arriver devant cette Cour qui reste beaucoup plus protectrice des droits de l'homme que la France, il faut y avoir épuisé toutes les voies de recours interne. C'est-à-dire que si, imaginons, vous soyez victime de violations de droits, que vous passiez devant le tribunal administratif, il faudrait ensuite arriver devant la cour administrative d'appel, puis devant le Conseil d'État. Il faudrait débouter de toutes vos demandes pour ensuite pouvoir arriver devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une procédure qui peut être très très longue en termes de délai. Ça, il faut le prendre en compte. Malheureusement, c'est une réalité. Que ça peut durer des années, presque 10 ans, effectivement. Ensuite, pour les normes qui peuvent être invocables. J'ai passé la parole à Merveille, qui va développer tout ça.
Bah, peut-être dans la suite, au fait, comment arriver à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que, comme Carla l'a dit, voilà, vous devez épuiser au fait, toutes les voies des recours internes, ce qui va prendre du temps. Après, peut-être que pour le besoin du public, c'est important de souligner que la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une cour qui a été instituée par le Conseil de l'Europe. Et son rôle, c'est de pouvoir suivre la mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, en termes d'efficacité, la Convention européenne des droits de l'homme, elle est très efficace et elle a permis aussi un grand avancée par rapport à la question des droits de l'homme en Europe. Donc, au niveau de l'Europe, au niveau de la Cour européenne, il y a cet instrument au niveau de l'Europe qu'on peut aussi recourir. Et à part la Cour européenne des droits de l'homme, il y a d'autres voies. On a parlé du PIDES, on a parlé du Pacte international des droits civils et politiques. C'est qu'il y a les comités qui sont chargés pour pouvoir suivre en fait, la mise en œuvre de ces instruments qui sont contraignants. Il y a le comité pour le droit économique, socio-culturel, et puis il y a le comité des droits de l'homme, qui sont basés à Genève, je crois. À Genève, ouais. Oui. Si je ne me trompe pas, ils sont basés à Genève. Et ça aussi, pour arriver là-bas, il faut épuiser toutes les voies de recours. Donc, il faut, pour l'instant, compter sur les juridictions nationales. Et voilà. Je ne sais pas si mes collègues, ils ont rajouté.
Ouais, juste une précision sur la Cour européenne des droits de l'homme. C'est que, certes, c'est une cour, on va dire, la plus protectrice des droits de l'homme, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elle est financée, enfin, elle dépend du financement des États. Et elle ne peut pas non plus se permettre de tout dire, notamment en termes de droits étrangers, et qu'elle sait que la politique migratoire européenne, on va dire, n'est pas la plus favorable pour les demandeurs d'asile, et que c'est aussi pour ça, peut-être, qu'on parle de coquilles vides en ce moment des droits de l'homme. Parce que, on va dire que les décisions qu'elle développe vont dans le sens aussi beaucoup des États, parce que derrière le juridique, il y a du politique et du financement. Quoi. Voilà.
Oui, merci pour votre explication. Et je voulais poser une question par rapport à cette mise en œuvre des droits fondamentaux sur le territoire national, par rapport à un autre droit, mais le parallèle permet peut-être de comprendre un peu mieux. Par exemple, sur le droit au logement en ce moment, il y a une telle carence en fait, des mécanismes de l'État et un tel dysfonctionnement structurel pour mettre en œuvre ce droit qu'aujourd'hui, quand on fait des référés liberté au tribunal pour dire voilà, il y a un défaut de mise en œuvre de ce droit fondamental qu'est le droit au logement, le juge dit « Ah mais en fait, je ne peux pas régler ce problème moi-même aujourd'hui puisque c'est un dysfonctionnement structurel dû à une politique de l'État, donc je ne vais pas audiencer cette affaire parce que comme vous le voyez, j'en ai 1000 comme ça. » Et que du coup, là, on passe non plus au jugement d'un cas particulier, mais on passe à un problème qui relève d'une question d'État et je ne suis pas en mesure dans cette juridiction de traiter ce cas précis. Donc là, est-ce que c'est considéré comme débouté ou est-ce qu'en fait il n'y a pas de jugement et donc on reste finalement, ça renvoie aux politiques ses responsabilités, mais en termes de droit, on est dans un statu quo quelque part.
Je ne sais pas si je vais répondre dans la totalité, mais oui, dans le sens où le juge de toute façon ne peut pas se substituer au législateur, donc à celui qui écrit la loi. Donc à partir du moment où il y a une sorte de lacune ou de vide juridique, il pourra rien faire, quoi.
Oui, mais donc par rapport à cette mise en œuvre des droits fondamentaux, quand il se passe ça, quel est le recours possible du plaignant, en fait, de la personne qui se trouve lésée par la non-mise en œuvre de ses droits? Parce que vous dites il faut être débouté pour pouvoir aller à d'autres types de juridictions. Là, on arrive dans une sorte de vide ou pas?
Alors, en fait, ça dépend si le juge a jugé la décision irrecevable. Donc dans ce cas, malheureusement, il n'y a pas vraiment d'appel à faire. Il n'y a pas de recours possible en fait. Mais par contre, si il a jugé de votre cas, et il a décidé que les personnes en l'occurrence ne pouvaient pas avoir accès au logement. Là, normalement, il y a un appel possible et normalement, il est possible d'aller devant la Cour la cour administrative d'appel. Mais il y a aussi un autre truc que je voulais dire, c'est que normalement, l'État a l'obligation de prendre en charge toutes les personnes, les demandeurs d'asile, même s'ils n'ont pas encore eu le statut de réfugié. Il y a une obligation de logement, je ne sais pas, mais en tout cas de prise en charge sanitaire. Bon, après, en pratique, c'est sûr que c'est différent, mais bon, voilà.
Oui, j'aimerais compléter, en fait, c'est que là, tel que vous présentez la situation, c'est clair qu'il y a un vide. Et tout dépend, en fait, des stratégies qu'on utilise par rapport aux droits de l'homme. Il y a des auteurs, par exemple, je peux citer Lefort. Lui, il a vu les droits de l'homme sous l'angle politique. Et donc, c'est là, en fait, qu'intervient le rôle des organisations, des associations, qui, eux, doivent mener, en fait, des actions vers les acteurs politiques pour pouvoir trouver des solutions là où les juridictions n'ont pas pu trouver des solutions. Le juge, oui, il va dire que vous aviez le droit et il va reconnaître ça dans son arrêt, mais il s'arrête là. Et vous, en tant que défenseur des droits humains, vous êtes membre d'une association, c'est là, au fait, qu'intervient votre rôle de pouvoir mener des actions de plaidoyer. Et c'est là, au fait, qu'on voit des rôles, au fait, des ONG, ça intervient souvent dans ces cas où les limites du juridique est claire et qu'il faut passer par les autorités politiques pour pouvoir présenter les cas. Et il faut chercher des opportunités par rapport au contexte. Et donc, ça aussi, c'est une autre voie. Il ne faut pas dire que voilà, le juge a dit qu'il ne peut pas et voilà, on ne peut pas. Il faut trouver d'autres stratégies et les plaidoyers sont ces moyens de stratégie aussi.
Et aussi, une autre question que j'ai, moi, par rapport aux droits fondamentaux et en particulier aux droits de l'homme, c'est aussi une critique qui a été émise, on va dire, il y a déjà presque deux siècles, mais sur la question de... En fait, les droits de l'homme sont des droits individuels qui sont les résultats de politiques libérales qui instituent la liberté individuelle. Dans le cas du Bureau des dépositions... Nous co-signons, comme l'a dit Marie en introduction, un contrat d'indivision. C'est-à-dire, nous sommes 10 co-auteurs, co-autrices, en indivision, qui, tu le précisais, Jade, nous contribuons à une œuvre de collaboration, où précisément l'indivision de notre auctorialité est en jeu, en scène, dans notre création. Les droits de l'homme, ou ce que vous proposiez aussi en termes de perspective, en termes de régularisation, j'ai l'impression, implique une dimension individuelle, à nouveau, c'est-à-dire régularisation de 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 jusqu'à 10, voire plus, si on arrive à évidemment créer, enfin que d'autres personnes se joignent à nous. Dans la question également des droits de l'homme, il y a... On oppose la liberté individuelle de création, la liberté individuelle d'expression, etc. Et donc, je me demande, et j'entends bien, j'imagine bien que les droits de l'homme peuvent entendre notre cas, c'est-à-dire le cas d'une indivision, de 10 personnes indivisibles. Mais je m'interroge, et c'est le cas aussi pour le droit d'auteur, si je ne m'abuse, comment dépasser la dimension individuelle, c'est-à-dire comment... prendre en compte cette notion d'indivision et aussi cette notion... Alors, au Bureau des dépositions, nous ne sommes pas un collectif, nous sommes 1 plus 1 plus 1, mais en indivision. Et ce qui est encore un peu différent d'un collectif, comment faire entendre ça? J'imagine que c'est quelque chose qui a été beaucoup discuté en droit par ailleurs. Et je ne sais pas si vous avez des choses à nous dire.
Bah alors, en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les droits de l'homme, c'est ce que Carla disait avant. En fait, il y a plusieurs générations de droits de l'homme. Donc, les droits de l'homme de première génération sont effectivement des droits individuels, droit à la vie, droit à la dignité. Mais il y a également les droits donc économiques, sociaux et culturels qui, eux, sont davantage des droits collectifs, finalement. Ce sont les droits de deuxième génération. Et donc, qui ont été, entre autres, considérés par le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Et en fait, parmi ces droits collectifs, on retrouve très bien le droit, il y a le droit à la réunion, par exemple, qui me vient spontanément. Après, en droit de deuxième génération, qui ne sont pas forcément des droits collectifs, mais il y a le droit à l'éducation, le droit à la santé. Donc finalement, les droits de l'homme ont plusieurs dimensions. Et il peut effectivement y avoir une dimension collective. Voilà, je ne sais pas. pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose.
Ouais, juste, mais ça c'est un plus quelque chose de plus procédural, mais je rejoins ce que tu dis sur le côté individuel, même quand on va au, on va dire au sommet de la procédure, par exemple, tout simplement, par exemple, le juge international, lui, n'a pas le pouvoir d'annuler une mesure étatique, il va seulement, il va cesser la violation qui est faite à la personne qui fait le recours. Donc, en fait, même la finalité reste individuelle.
J'ai une question. J'ai voulu poser la question au niveau des droits fondamentaux, comment ils sont protégés à des niveaux, au niveau local, mais tu l'as répondu à travers les associations, ces ONG. Maintenant, j'aimerais savoir, ces ONG se servent de quel moteur juridique pour aller vers ces instances, au fait, quoi?
Bah, ils inventent rien. Ils inventent rien. Ils se basent sur ce que nous, on a pu étaler lors de nos présentations. Mais enfin, je reviens sur la stratégie, c'est important. C'est important en tant que défenseur des droits humains d'avoir des bonnes stratégies pour savoir à qui parler, quand et comment. Donc c'est vraiment le travail que ces ONG font. Et moi, je pense que il faut quand même reconnaître ces mérites en fait, des ONG qui ont permis de faire évoluer les droits fondamentaux dans les États. La grande partie des succès et des réussites qu'on a en matière de droits fondamentaux réussites, c'est vrai qu'elles relèvent des garanties qui ont été assurées par les législations et la Constitution aussi, mais il faut aussi reconnaître que les ONG ont joué un grand rôle et ils n'inventent rien. Ils se basent sur le PIDESC, le PIDPC, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, et même aussi des instruments au niveau de l'Union européenne, parce qu'il faut aussi faire la différence, c'est que le Conseil de l'Europe, c'est pas l'Union européenne. L'Union européenne, c'est 27 États, c'est ça ? 27, avec le Brexit, et le Conseil de l'Europe, c'est 47. 47 États, dont la Russie et d'autres États. Donc, c'est pas la même chose, et chaque organisation a, elle, au fait, un instrument juridique par rapport aux droits fondamentaux. Au niveau de l'Union européenne, il y a la charte des droits fondamentaux, elle est aussi très efficace, et voilà, il se base, au fait, sur des engagements, des instruments qui ont été reconnus, ratifiés par les États au sein des organisations régionaux pour pouvoir s'adresser, au fait, aux politiques.
À moins que j'ai pas bien compris, mais tu demandais quel était le moteur juridique, enfin, c'est-à-dire comment il s'y prenait en fait, c'est ça ?
Oui, c'était ça. Oui.
Je veux dire concrètement comment une ONG, enfin comment elle agit
Bah là, c'est un cours de plaidoyer. Bah comment ils agissent ? Moi, je peux illustrer l'un des cas, c'est qu'ils font des plaidoyers. Donc ils passent d'abord par une consultation des personnes qui sont affectées par une réalité. Pour le cas concret, c'est les migrants en situation irrégulière. On va essayer de lister les difficultés qu'il y a au regard des instruments juridiques qui régissent la vie dans cet État. Dans le cas précis, c'est la France. Et après, ils vont mettre en place une note des plaidoyers et ils iront voir une autorité qui est censée régler ou apporter des solutions par rapport à cette situation. Dans les cas concrets, on peut voir la préfecture ou encore peut-être, je ne sais pas, les mairies ou les ministres. Et en fonction de ça, ils vont ramener la question au Parlement, soit il faut voter une loi ou bien soit il faut essayer d'aménager des politiques budgétaires appropriées. Mais c'est en fait, concrètement, je pense que c'est, si je ne me trompe pas ou que je ne dise pas des choses aberrantes, mais je pense que c'est un peu dans cette voie-là qu'il passe tout en se basant en fait, sur des lois qui sont en vigueur.
Et j'aimerais rajouter aussi que ça, c'est du coup le travail que les ONG peuvent faire en aval, mais il y a aussi une grande force des ONG parce qu'en amont, il faut savoir qu'elles peuvent participer comme observateurs dans toutes les négociations justement pour adopter des pactes protégeant les droits de l'homme. Par exemple, Amnesty peut être complètement observateur au Conseil de sécurité de l'ONU, au Comité des droits de l'homme, donc peut, comment dire, apporter des éléments de réponse, poser des questions aux États et faire en sorte d'influencer sur les résultats de finaux. Donc aide vraiment à l'adoption de tous ces pactes protégeant les droits de l'homme et les individus. J'ai encore une question concernant, alors je ne sais pas comment on dit en termes juridiques, mais ce droit contre droit qui, par exemple, met en but une personne à qui on a délivré un ordre de quitter le territoire français, donc qui n'est plus censée être sur ce territoire, et aussi l'injonction de donner et d'apporter hébergement, soins, éducation à toute personne qui est sur le territoire. Et par rapport à la situation du bureau des dépositions, je voudrais citer un cas qui m'a été donné par une avocate. Il s'agit de l'affaire de je ne sais plus qui contre la SNCF. Et en gros, il s'agissait d'un recours contre l'atteinte à l'intégrité d'une œuvre. L'œuvre était une fresque qui avait été peinte sur des wagons de train ou sur un bâtiment de la SNCF qui semblait plus ou moins abandonné. Et donc les artistes disent ben, vous ne pouvez pas repeindre ni détruire puisque c'est notre œuvre d'art. Et on le justifie par nos activités précédentes et notre inscription dans un champ, etc. Et le juge dit certes, vous avez raison, mais vous n'étiez pas censé savoir que cet espace-là était privé ou que cet espace-là n'était pas destiné à recevoir votre œuvre d'art et que donc vous ne pouvez pas substituer une loi à une autre, vous n'avez pas le droit de peindre à cet endroit-là. Et du coup, je me demande comment s'articulent du coup ces injonctions contradictoires ou ces droits contradictoires qu'on pourrait retrouver aussi dans le cas du bureau des dépositions, par exemple. En fait, c'était plutôt basé sur le fait que quand on sait déjà la loi, on ne peut pas y avoir... Enfin, voilà, vous avez compris.
Je ne sais pas trop si j'ai compris. Quand vous dites quand on sait déjà la loi, est-ce qu'il y a eu ignorance d'une loi par rapport à une partie ou pas ?
Le juge dit... nul n'est censé ignorer la loi.
Oui,
c'est un domaine privé. On n'a pas le droit de peindre sur des wagons de train qui appartiennent à la SNCF. Point. Donc maintenant, vous y avez mis votre œuvre, à vous d'assumer ça et assumer aussi sa destruction qui était programmée depuis le début puisque vous n'aviez pas le droit d'y peindre.
Alors là, c'est je crois que c'est un peu une situation qui met en bataille les droits publics et les droits privés. Je ne sais pas si j'arrive à cerner correctement la question, mais bon, c'est une bataille. Hein. C'est une question juridique qui se pose et à qui apporte le plus grand argument, remporte en fait. Et pour le cas précis, c'est le droit public qui remporte parce que bon, c'est la souveraineté et c'est l'autorité qui décide sur les territoires, malheureusement, mais bon. Je crois que devant un autre avocat assez équipé, il aurait pu remporter aussi. Donc, en gros, c'est vraiment une bataille juridique qui dépend de qui apporte le grand argument, remporte. Okay. C'est un peu comme ça que je vois la chose, sachant qu'il y a une autorité et il y a une souveraineté à respecter.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la liberté de création artistique n'est pas... n'est pas un droit qui est indérogeable finalement et que donc là je sais pas si c'est le cas en l'espèce mais en tout cas genre quand il y a des atteintes quand l'œuvre d'art porte atteinte au respect de la dignité humaine ou à la vie privée, à la protection des mineurs ou à l'ordre public ou encore à la propriété d'autrui, alors dans ce cas effectivement la liberté de création artistique doit s'effacer donc bon. Alors ça, je ne l'ai pas, mais c'est dans le commentaire du maître de conférence que je citais précédemment. Vous pouvez le retrouver dans son commentaire.
Par ailleurs, il y a eu, alors c'est rare, mais il y a des jurisprudences qui existent où, dans les cas de Graff, précisément, l'atteinte à la propriété privée est considérée comme moins importante que la valeur de l'œuvre. Par exemple, Banksy, qui est un graffeur extrêmement reconnu et coté sur le marché de l'art et qui a une valeur marchande qui se compte en millions, de dollars, d'euros, de yens, j'en sais rien. Je ne pense pas qu'il y ait une jurisprudence à son égard, mais il y a quelque chose de fait que quand les propriétaires se battent plutôt pour avoir une œuvre de Banksy sur leur mur. Et où donc la question de la valeur viendrait potentiellement informer. Et il y a des jurisprudences que je n'ai pas sous les yeux, mais qui existent, même si elles sont rares, où la question du droit privé, de la propriété privée ou autre sont passées en deçà de la valeur artistique. Et d'ailleurs, ces jurisprudences m'intéressent à étudier. Je les cherche, je sais, enfin, plusieurs personnes ont dit que ça existait. Et je lance un appel à nous, déjà, autour de cette table et à celles et ceux qui nous écoutent peut-être, pour les trouver et les mettre en partage pour que nous puissions les étudier.
Moi, je tiens à vous remercier. Et du coup, ce que je voulais juste savoir ici, et d'après tout ce que j'ai compris ici, c'est juste dans les démarches à suivre et des atouts. Et je crois que c'est ce qui a été présenté ici, si j'ai compris bien. Et moi, je voudrais savoir, dans l'éventualité, avec le bureau de déposition, avec le format que nous essayons de faire, si ça se trouve, comme vous avez parlé ici, du juge d'instruction qui va reconnaître l'œuvre, si ça se trouve, dans l'éventualité, ça ne s'est pas fait, nous, on peut s'attendre à quoi comme jugement ou comme impact de ce que nous faisons?
Sur la régularisation ou sur...
Oui, c'est parce qu'en matière de contentieux, c'est ce que nous essayons de faire. Nous réclamons, nous attaquons le droit, et par le droit encore. Et si ça se trouve qu'on n'a pas gagné le procès, on n'a pas... Et le juge, je me demande qu'est-ce qui va être à retour pour nous.
C'est une grande question, là.
C'est ça la raison pour laquelle on est là, Nico. Je sais pas, gagne un peu.
Non, je crois qu'on n'attaque pas, mais je pense qu'on suscite des problématiques qui empêchent en fait, quoi, les co-auteurs et co-autrices du bureau de déposition liés par exemple au droit coutumier, liés par exemple au droit de circulation, liés par exemple au droit de création, liés par exemple au droit de recherche. Donc moi je pense qu'on suscite en fait, quoi, ces problématiques qui nous intéressent, qui fait que par exemple dans l'évolution de notre constitution, donc ça entrave, donc ce qui fait qu'on est quasiment bloqué. Moi je pense que ça, en fait, quoi. Qui est le bureau des dépositions, donc ce qui nous intéresse. Donc en cas, par exemple, si par ailleurs, qu'on a soulevé que dans l'évolution, à l'origine, il n'y avait pas cette thématique de contentieux ou de prévaloir le fait que toutes ces thématiques, mais vu dans l'évolution, on est confronté à ça, donc ça nous intéresse le fait que de susciter, au cas où par ailleurs, on arrivait à faire un contentieux ou d'autres démarches, qu'est-ce qui peut nous attendre, par exemple, au retour, par exemple. Je pense que c'est la question, en fait, quoi. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver au bureau de déposition au cas où voilà, les choses vont évoluer? Parce qu'on a constaté dans l'évolution qu'il y a des problématiques qui nous empêchent, quoi.
Bah, nous, le but, c'est de faire primer votre situation de co-auteur sur la situation de demandeur d'asile et de faire primer la situation d'artiste avant de demandeur d'asile et que ça permette justement de régulariser cette situation. Je sais pas si c'était la question ou pas, mais
bah après c'est vrai que c'est il y a pas enfin je pense qu'il y a des situations similaires au cas du bureau de déposition, mais il y a pas un précédent qui ressemble au cas du bureau de déposition, et donc il y a deux possibilités, hein. Si on est réaliste, soit le bureau de déposition ne va plus exister, ce qu'on ne souhaite pas et qu'on lutte pour ça, soit qu'on essaye de montrer qu'il y a besoin d'une réglementation nouvelle. Et donc, je crois que c'est ça, au fait. Mais dans tous les cas, il n'y a pas eu un précédent qui ressemble à ces cas précis. Et donc, ça montre qu'il y a un vide juridique qu'il faut combler avec une législation qui est adaptée. Et donc, c'est ça le but. Sinon, on va parler du bureau de déposition au passé. Non.
Moi, je me demandais si, finalement, on ne peut pas aussi réfléchir à partir de nous, qui sommes... spectateur, spectatrice ou amateur, amatrice, collectionneur, collectionneuse de cette œuvre d'art. Et par rapport à ça, je pense au droit des biens communaux qui, en France, permettait par exemple de considérer que des choses nous appartenaient à tous, comme une forêt ou l'eau, et qu'on en avait quand même, on avait des droits d'usage sur ce bien commun, par exemple le droit d'aller couper un certain nombre de stères de bois pour notre usage personnel. Pour l'art, en fait, c'est pareil, ça ne nous appartient pas, mais on en fait usage dans certaines conditions. Et donc, je me demandais si nous, on pouvait réclamer, en fait, l'usage des œuvres du bureau des dépositions comme un commun. Et du coup, Le commun, dans ce cadre-là, il est défini par une assemblée, donc par exemple les spectateurs et spectatrices, usagers, usagères, assemblées qui ont une gestion non exclusive de cette œuvre d'art, donc toujours ouvert à d'autres personnes. Le commun est aussi défini par une ressource, et pour nous c'est sans doute la capacité à réfléchir à travers cette œuvre ou à pouvoir la suivre et la voir à nouveau. Et la troisième chose, c'est des règles d'usage qui font que cette assemblée va gérer de manière non exclusive cette œuvre d'art. Donc nos règles d'usage, à nous de voir nos pratiques de spectateurs et spectatrices d'art pour définir ce qu'est notre usage de l'art. Voilà, et donc je me demandais si ça pouvait être un cadre aussi de reclaim, en fait. De reclaim, quelque chose qui fait désormais partie de notre patrimoine, si on peut dire, ou j'en sais rien.
Si j'ai bien compris la question, je suis pas sûre. C'est est-ce que, en gros, l'œuvre des bureaux des dépositions pourrait devenir un bien commun, public ? Et là-dessus, je pense que c'est un peu problématique parce que pour que ça devienne un bien public, il faut que l'État le considère comme tel. Et malheureusement, j'ai peut-être pas vraiment compris la question, mais malheureusement, j'ai l'impression que l'État est encore très réfractaire à tout ce qui est art.
Mais est-ce que l'État ne considère pas comme un bien commun et un bien public les œuvres d'art sur son territoire ?
Je sais pas, ça malheureusement c'est une grande question parce que généralement pour justement déterminer un bien public, il faut que ce soit un bien qui soit indispensable au bon fonctionnement des services publics. Et je sais pas si l'État considère l'œuvre d'art comme quelque chose d'indispensable au fonctionnement et à la continuité des services publics, ce serait... Bien, mais je ne sais pas si c'est la priorité. Peut-être que vous avez autre chose à rajouter.
Je crois que si on parle des droits des communs, je crois que en fait, ou les communs, je crois que le droit a en quelque sorte éradiqué les communs. C'est-à-dire que dans le droit qu'on connaît aujourd'hui, que tout en fait est la propriété soit de quelqu'un, donc d'un individu, ou des gouvernements, quoi, des nations, des institutions publiques. Donc les communs, c'est très rare qu'on les retrouve, qu'on retrouve des choses qui sont à la fois gouvernées par le public et le privé, ou qui sont vraiment encore accessibles à tous, à des conditions d'usage et... donc je crois que là, on est vraiment sur une piste qui est très loin de notre système de droit d'aujourd'hui.
Peut-être juste, en fait, moi, ce que je trouve intéressant dans tout ce qu'on est en train d'évoquer, c'est qu'effectivement, il y a toute cette problématique du droit souverain étatiste, et puis il y a en fait les pratiques de vie, et comment en fait on a observé dans ce qui nous a été répondu à la demande de Mamadou Djoulibaldé, et ce que toi, tu as revisité, Mamie, en disant qu'en fait, c'était un problème qu'on essayait de constituer, d'instaurer et de mettre en partage. Ce que vous disiez, c'est qu'en fait, si demain, on essaye de faire valoir dans les chambres juridictionnelles notre problème, c'est-à-dire ce problème que l'on a dans la structure même de l'œuvre et du coup dans la structure même de notre exercice au droit fondamental à la liberté de création et d'expression, en fait, un procès, on va être opposé au droit souverain, enfin, en tant que particulier ou par rapport à cette œuvre particulière, et ce procès va durer très longtemps. Il y aura des recours et ça va durer, les chambres nationales, c'est, vous disiez, 6 ans, 2 ans par procès environ, 6 ans pour arriver dans une cour européenne, etc. Donc le droit, il est très lent par rapport aux pratiques de la vie, en fait. Et ce que j'entends, et en fait, la posture qu'on pourrait nous adopter, c'est peut-être monter des ONG pour faire une sorte de lobbying ou demander à ce qu'il y ait des réévaluations ou des commentaires ou des changements dans les appréciations et la structure du droit. Mais alors, bon, moi, ça, je ne sais pas du tout comment faire. Mais peut-être que ce dont tu parles, l'Assemblée, c'est-à-dire la restructuration de la propriété même du public, qu'est-ce que c'est un public et comment il se constitue public, etc., etc. Peut-être qu'il y a quelque chose à réfléchir, je ne sais pas, par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que nous, en tant que premiers concernés, on a intérêt, en tout cas, à faire valoir ces droits face à une situation, à ce problème. Mais tout ça est toujours, limité. C'est-à-dire qu'il y a ce temps qui est long et il y a cette situation qui, par ailleurs, est extrêmement menaçante. Et comme le disait Merveille, bureau des dépositions, si ça se trouve, dans 2 mois, certains d'entre nous seront séparés, l'atteinte à l'œuvre sera constatée. Et comme on a signé ce contrat de co-auctorialité exclusive, de notre coprésence exclusive, les exercices de justice spéculative ne pourront plus se faire, en quelque sorte. La question que je me pose, c'est est-ce que tout ça, c'est pas aussi un lieu de réflexion sur, par exemple, les propriétés des œuvres, c'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui les artistes, les scientifiques, les chercheurs, en fait, signent des œuvres, signent ou non des œuvres en co-auctorialité, engagent des situations de relations et de liens inaliénables, et donc font valoir aussi les empêchements de leur production dans le capital cognitif, dans le capital marchand, et que petit à petit, si chacun d'entre nous, on a ces postures, si des collectionneurs, des publics se constituent, comme tu le disais, Claire Astier, en assemblée, qui déterminent eux-mêmes la gestion des propriétés d'une œuvre, se constituent eux-mêmes, pas plaignants, mais requêteurs, qu'en fait, il y a une série comme ça de repositions d'usage devant le droit qui est régi par un droit souverain, peut-être qu'en fait c'est tous ces éléments qui vont changer des lignes et puis surtout en fait créer une situation dans les cours juridictionnels d'attention particulière à une sorte d'écologie des pratiques entre la production des savoirs liés aux politiques migratoires ou la production des œuvres ou des actes militants liés aux politiques migratoires. C'est sûr que si on est tout le temps en train d'essayer de détourner, c'est aussi ce qu'on fait, mais en train d'essayer de détourner les injonctions du droit souverain sans rentrer dedans et faire à découvert, en se disant on ira dans les chambres juridictionnelles, on exposera nos cas. En fait, on n'arrivera pas à faire, à s'inviter dans le droit en quelque sorte, quoi. Je sais pas comment dire ça.
C'est une question à tous. Parce que je pense que là, on est plus en train de réfléchir à des perspectives. Et je vais être ambitieuse parce que là, je me pose la question est-ce que on peut imaginer que le bureau des dépositions soit rattaché à tout ce qui concerne patrimoine artistique ou culturel. Oui, vous pensez?
Il l'est de fait puisqu'il a droit de cité dans des institutions artistiques reconnues par l'État. Là, par exemple, nous, on est en discussion avec le Fonds régional d'art contemporain de Marseille pour établir un plateau radio là-bas. Et on a déjà évoqué avec eux le fait qu'en commission d'acquisition pour l'année prochaine, si le bureau des dépositions le souhaite, parce qu'on ne sait pas, enfin, les choses peuvent changer, etc., l'œuvre bureau des dépositions pourrait être acquise par le Fonds régional d'art contemporain. Donc,
Donc si, moi, j'ai fait des recherches sur ça, hein, mais c'est resté dans les cadres de mes cours, parce que je dois écrire quelque chose dans les cadres du cours de droit économique, socio culturel. Et donc, hier, j'ai écouté un podcast sur les patrimoines du XXe siècle. C'est un label, je crois. Et donc là, il y a des critères. Et moi, je me suis dit, c'est un critère qui collerait au fait au bureau des dépositions parce qu'il y a la question de la place, l'innovation et la particularité pour qu'on puisse attribuer au fait les labels à l'œuvre. Et si vous estimez que c'est une de perspectives, pourquoi ne pas avancer, sachant que moi, je pense que c'est vraiment ambitieux, mais ça vaut le coup, quoi. On ne peut rien obtenir si on ne fait rien, quoi. C'est quoi ce label? Ouais, c'est un label qui s'appelle Patrimoine du XXe siècle. Et moi, j'ai trouvé ça sur Internet. Hein. En gros, il sert à reconnaître des sites ou des œuvres d'art comme étant patrimoine, en fait, culturel. Et donc, comme critère pour être reconnu dans ces labels, c'est la place, l'innovation et la particularité de l'œuvre. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail de fond à faire par rapport à ce qui porte l'œuvre pour pouvoir prouver qu'il y a une particularité. Et donc, je ne sais pas. Je pense que si vous estimez que c'est une des voies, on peut toujours réfléchir. à comment rallier la question du patrimoine, bureau des dépositions au patrimoine culturel ou artistique. Après, je ne sais pas, c'est vraiment une réflexion à haute voix. Peut-être dans la recherche des fonds, on peut éliminer ou approfondir la question, je ne sais pas.
Et peut-être que je raconte n'importe quoi, mais j'essaye quand même. Dans cette idée-là, dans ce processus-là, qu'est-ce qui caractérise une institution? Et est-ce qu'une institution peut être nomade? Et est-ce que cette institution nomade pourrait être reconnue d'utilité publique?
En fait, ça me fait penser au patrimoine immatériel universel. Alors je ne sais plus de quand est-ce que ça date, mais c'est la reconnaissance d'œuvres ou d'institutions, mais immatérielles. Bon, et universelles. Alors c'est toujours ce terme très miné, en fait, universel. Enfin, je veux dire, en fait, c'est les pays occidentaux qui décident que quelque chose doit être protégé ou non. Et c'est toute la question aussi d'un droit qui protège et qui initie la protection, etc. Donc nous, c'est aussi des questions qu'on se pose. Par qui on a envie d'être protégé? Est-ce qu'on a envie d'être protégé? Est-ce qu'une œuvre doit être protégée ou est-ce que, en fait, elle doit justement ne pas être protégée pour pouvoir devenir proliférante et en fait utilisée par toutes et tous et déformée? Enfin, c'est aussi des questions pratiques, en fait, très pratiques. Mais ça, c'est en fait cette histoire de labellisation et de patrimoine universel. C'est aussi. En fait, c'est plutôt. Vous nous aviez proposé ça à la Clinique du droit comme atout pour renforcer un peu aussi les fondements de l'œuvre, qui, en ce qui nous concerne, c'est quand même une œuvre qui a une particularité très forte, c'est qu'elle est signée en coauctorialité avec des personnes qui sont concernées au quotidien par les procédures de la demande d'asile, qui sont des procédures extrêmement violentes et qui déplacent du jour au lendemain, on ne sait pas où est-ce qu'on va être, etc. Donc psychiquement, c'est quand même des procédures qui sont extrêmement violentes. Et les lettres de déposition qu'on écrit et les palabres qu'on élabore depuis ces lettres de déposition et la réflexion qu'on élabore depuis ces lettres et cette question de la justice, c'est aussi des témoins vivants, c'est aussi une forme d'expression vivante des premiers concernés de ce que sont les politiques migratoires. Alors aujourd'hui, en fait, la plupart des gens qui publient ou qui commentent ou qui communiquent sur ou qui créent sur ces questions, en fait, ne sont pas les premiers concernés. Justement parce que rien n'est signé en coauctorialité. Donc souvent, les chercheurs vont prendre des extraits, analyser les extraits à l'intérieur d'une thèse, et il y a une somme énorme de publications, de réflexions là-dessus, mais en fait les premiers concernés, c'est-à-dire en fait celles et ceux qui sont les éléments premiers de cette grande documentation là, sont jamais pris dans la coauctorialité. Et quelque part, j'ai l'impression qu'il y aurait quelque chose à revendiquer aussi à cet endroit-là, moi, parce que je trouve que c'est le fondement de la pratique du bureau des dépositions, par le droit d'auteur, d'avoir trouvé le moyen de lever cette pratique de récit et d'élaboration d'une pensée depuis les personnes concernées en premier rang par les politiques migratoires et qui, par exemple, parfois ne peuvent pas venir à une résidence de création parce qu'ils avaient rendez-vous à la préfecture et que ce jour-là, alors que un mois avant, ça n'était pas le cas, on leur demande de les suivre et qu'en fait, ils sont éloignés de leur résidence de création, quoi.
Mais ça, c'est à nous de le faire, dans le sens où là, c'est plus des tribunaux, c'est à nous de rentrer dans une écologie de nos pratiques et de faire valoir et d'imposer ce genre de choses au sein de nos milieux, de nos syndicats et de nos chartes et de nos manifestes professionnels, en fait. Si nous, on décide de faire remonter ce genre de choses et de décider que on veut faire tout un travail pour que désormais ça soit un standard, alors ça le deviendra. Enfin, là, c'est plus des questions de tribunaux, j'ai l'impression.
Moi, en fait, je pense principalement depuis notre pratique. Je ne peux pas... par exemple, nous... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Diakité, Mamadou et Mamie, mais j'ai l'impression que la pratique du bureau des dépositions, on l'a jamais proposée comme un modèle. Elle pose des problèmes, mais c'est pas un modèle. On a une pratique qu'on essaye de poursuivre, qui est comme une quête, quoi, une enquête de création en fait. Et effectivement, cette pratique-là nous amène à revoir nos codes de conduite, plein de choses en fait dont on ne fait pas spécialement état. Mais par exemple, la question économique, on en parle souvent, la question des valeurs symboliques, enfin, la question même du vocabulaire, enfin, on traite de tout ça effectivement. Mais c'est vrai que c'est des éléments qu'on ne rend pas spécialement publics et on ne se propose pas comme élément de modélisation, quoi. Non mais je dis ça parce qu'en fait, c'est sur le patrimoine immatériel, on ne peut pas déclarer que le bureau des dépositions serait une pratique qu'il faut répandre partout. Qu'est-ce qui est à protéger en tant que patrimoine immatériel? Qu'est-ce qui institue? Ce serait ça en fait. Ce serait cette pratique d'un récit porté sur la situation par des co-auteurs concernés en premier lieu par la situation. Et après, si ça fait écho et que des gens s'en saisissent et le déplacent dans les fondements de leur propre pratique, pourquoi pas ?
Quand vous avez parlé à Marseille du bureau des dépositions, moi j'en ai refait le rapport à Lyon, au collège Maurice Sève. Et en fait, actuellement, justement, moi j'essaie de mettre, déjà de leur expliquer un peu la démarche, la recherche, c'est déjà pas facile, quoi. Et dans le milieu artistique, ça pose un certain nombre de problèmes par rapport, effectivement, aux metteurs en scène, par exemple, aux réalisateurs, qui, eux, perçoivent des droits d'auteur. Et moi, quand je leur pose la question, et pourquoi les personnes que vous avez effectivement interviewées, qui sont présentes dans le film, ne sont pas aussi co-auteurs? Et actuellement, au collège, là, il y a une grande... Enfin, moi, je suis un peu au cœur de cette réflexion avec d'autres, Ibrahim, qui était aussi là, de Lyon, sur, par exemple, il y a une association qui veut mettre en scène une écriture, etc. Donc, la question, moi, je la pose incessamment. Et où sont les auteurs? Qui sont les auteurs? Il y a un film qui a été fait sur le collège. Est-ce que c'est vous les auteurs? Et ça, moi, je trouve ça, c'est vraiment fondamental. Enfin, moi, ça a vraiment révolutionné la posture des migrants dans le collège. Comment, comme tu dis, on extrait toujours, on prend toujours des témoignages, des bouts de leur récit, tout ça, pour faire valoir qui est un journal, qui est un journaliste, qui est un réalisateur. Et moi, je trouve ça, ça a vraiment révolutionné beaucoup de choses. Et ça m'a redonné un peu d'espoir.
Mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous croyez que quand les droits fondamentaux sont bafoués et que, par exemple, la situation du bureau de déposition, que certains co-auteurs se retrouvent dans des situations liées à ce que, par exemple, les libertés de création sont bafouées, les droits fondamentaux sont bafoués, est-ce qu'on peut s'imaginer que le bureau de déposition prévaloir, en fait, quoi, dans un champ, comme l'a dit la dame, fait, dans le champ de l'art, dans le champ de l'art, de la recherche, est-ce qu'on peut prévaloir, en fait, quoi, cette mesure, en fait, quoi, du rétrograde, en fait, ce n'est pas ce qui constitue, en fait, quoi, nos combats, mais est-ce qu'on peut prévaloir, en fait, quoi, ces mesures du rétrograde qui constituent, en fait, quoi, notamment l'empêchement, l'évolution du bureau, dans ce cas présent, quoi, est-ce qu'on peut prévaloir ces mesures du rétrograde pas l'instant, mais dans les faits, dans les plateaux radio, est-ce qu'on peut rentrer dans ces champs de discussion qui mettent au fait qu'en péril, par exemple, ces mesures de rétrograde dont le bureau de déposition fait face aux institutions, aux problèmes liés à la demande d'asile ou de placement, ou à tous ces champs qu'on attaque, à l'instant, dans la mesure où on n'a pas encore déposé la requête dans les tribunaux, est-ce qu'on peut déjà être dans les débats, dans les discussions sur ces champs de rétrograde vis-à-vis du bureau de déposition, par exemple? Parce que je sais, la dernière fois que tu parlais de mesures de rétrograde qui sont en fait beaucoup plus impactantes, en fait, quoi, dans ce cas-ci, quoi.
Bon, je ne sais pas si j'étais très, très bien suivie, mais bon, y a plusieurs problèmes que le bureau de déposition soulève, en fait, dans les cas pratiques qu'il rencontre. Et donc, la démarche serait plutôt de présenter chaque problème et de se dire, en fonction de ces problèmes, quelles peuvent être les voies et les solutions. on voit tout ce qui a des mesures rétrogrades, en fait. La procédure même en tant que demandeur d'asile, c'est une procédure, moi je ne sais pas, mais juste à entendre quelqu'un qui les vit, tu sens que cette personne est loin d'être traitée comme un humain. Je suis désolée, mais là, on considère vraiment que ce n'est pas des humains. Déjà, on l'appelle sans papier, ensuite... il n'a pas de droit, c'est compliqué pour lui. On ne peut pas imaginer comment ils vivent, ces gens, mais bon, malheureusement, c'est le cas. Donc, c'est déjà des mesures rétrogrades. Et ça doit interpeller tout le monde. C'est pas... Après, moi, j'ai dit, je comprends, les juridictions ne peuvent pas tout apporter en termes d'évolution par rapport au droit, au respect des droits fondamentaux. Et c'est là, au fait, qu'il y a le rôle à jouer en tant que nous, défenseurs des droits humains, nous, associations, membres, je ne sais pas de quelle organisation. Quel est notre rôle? Comment, nous, on peut attaquer d'autres angles pour essayer d'interroger ces mesures rétrogrades et de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut régler le problème? Les juridictions, oui, on est d'accord, mais on sait le temps, les papiers que ça prend, la salive, les encres que ça prend pour pouvoir arriver à ce qu'on veut. Donc, il faut, enfin, c'est tout le monde doit jouer un rôle. Et il faut se dire, nous, en tant que radio, qu'est-ce qu'on va jouer comme rôle? Nous, en tant qu'étudiante, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une maison qu'on doit construire, en fait. Pour moi, c'est comme ça que je le vois.
Et par exemple, est-ce que des avocats, enfin, est-ce que par exemple, on pourrait imaginer qu'il y a cette première œuvre qui s'appelle Bureau des dépositions, exercice de justice spéculative, et puis il va y avoir l'œuvre 35 co-auteurs qui est faite avec ces 35 co-auteurs, et puis un nouveau format qu'on est en train de tenter de coproduire avec les subsistances et un théâtre suisse, le Grütli, qui s'appelle pour l'instant Mon Amata sculpter le vide de la justice. Mais est-ce que, par exemple, il pourrait y avoir des sortes de méta-œuvres, comme par exemple, moi je considère que œuvrer les limites du droit, les séminaires plateau radio, quelque part, on est un peu tous co-auteurs de ce format. Mais pour rebondir sur ce dont parlait Claire, c'est-à-dire et ce que tu dis en disant on construit une maison, c'est-à-dire chacun doit prendre conscience du rôle qu'il a dans cette maison et donc en fait quels vont être les usages de cette maison en considérant les intempéries à venir, la transformation du monde dans lequel on est. Donc c'est vraiment avoir une espèce de conscience collective élargie, voilà, douée de partage quand même. Hein. Est-ce qu'on pourrait imaginer que en fait on va vers des nouveaux types de contrats, et c'est peut-être ce qu'on pourra aborder avec Julie Van Esland cet après-midi, mais des nouveaux types de contrats de co-auctorialité qui s'élargissent ou qui se resituent dans des publics, par exemple, et qui, par exemple, nous, quand on signe des contrats de cession de notre performance, elle est signée par le contrat de cession est signé par tous les co-auteurs, et par exemple, la scène nationale de l'Hexagone, comme par exemple pour vendredi soir 21, là, on fait la performance, ou avec l'université, qui fait référence au contrat de co-auctorialité et qui stipule effectivement que nous sommes en conscience et en connaissance du statut administratif de chacun et chacune. Néanmoins, on demande à ce que si l'un d'entre nous n'est pas là, le théâtre, l'université, etc., etc., s'engage à... annuler l'événement, faire une conférence de presse, faire un bord plateau et peut-être appuyer la démarche je ne sais pas s'il y a une ONG qui... Enfin, appuyer la démarche de... Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça d'appui juridique pour protéger les propriétés de cette œuvre. Œuvrer les limites du droit ou assembler du bureau de... Enfin, voilà. Et alors, ce que je voulais demander, du coup, c'est est-ce que, par exemple, un avocat qui aurait plaidé pour nous peut être co-auteur? Enfin, est-ce qu'il peut plaider, par exemple, dans une chambre juridictionnelle et se déclarer aussi co-auteur? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas il y a pas de problème, j'imagine?
Après, moi, malheureusement, j'ai une vision du droit assez... Quand j'ai dit libéral, c'est que pour moi, j'imagine tout est possible en droit. Donc, si c'est possible, il faut rapporter les arguments, quoi. Donc, moi, personnellement, je ne sais pas, mais je ne vois pas la limite. Il faut juste expliquer et essayer de clarifier les choses. Après, convaincre l'interlocuteur, c'est ça peut-être le plus dur, mais Je ne vois pas la limite, en fait. Parce qu'on est même dans une situation où il n'y a pas un précédent. Ce qu'on nous présente aujourd'hui n'a pas existé avant et que c'est une situation assez particulière. La particularité même du bureau de déposition. Et donc, c'est l'opportunité de tout créer, pour moi.
Je ne connais pas les règles qui entourent tout ce qui est les règles des avocats, du barreau, etc. Mais je pense pas que, je sais pas, je sais que par exemple pour ce qui concerne l'arbitrage, quand il y a des conflits d'intérêts, on peut pas représenter, il peut pas être représentant de lorsque ça rentre en compte des conflits d'intérêts. Pour les avocats, je crois pas, donc je vois pas pourquoi il pourrait pas être co-auteur d'une œuvre qu'il défend.
Et moi aussi, je vois pas pourquoi, parce que hier Julien Serussi, il nous a dit que le bureau de déposition peut avoir plus que 10 avocats, que chaque co-auteur ou co-autrice peut avoir un avocat, eux-mêmes un avocat pour l'œuvre. Donc ça veut dire qu'ils sont co-auteurs aussi, ils sont dans la lancée, quoi. Donc je ne vois pas aussi pourquoi pas.
Oui, bien sûr, puis c'est complètement possible en justice de se représenter soi-même. Donc imaginons que c'est le choix que vous faites, vous avez le droit d'être artiste et d'assurer votre représentation. Donc oui, effectivement, je ne vois pas de limite à ce qu'un avocat puisse être co-auteur aussi de l'œuvre.
Mais du coup, c'est plus votre question à vous. Du coup, quelles sont les limites de l'œuvre que vous élaborez, ou à partir de quand vous considérez que les actes posés ou les mots posés font œuvre, et à partir de quand non. Enfin, c'est votre travail à vous, là, non?
Bah non, je pensais justement à l'assemblée que tu proposais de créer, qui pourrait devenir une œuvre en soi, c'est-à-dire comment est-ce que depuis le champ, aujourd'hui, le champ des pratiques contemporaines, qui en fait se sont déplacés des œuvres immatérielles recaptées par les musées à des formes aujourd'hui immatérielles qui viennent côtoyer la question des commons, côtoyer des questions politiques plus contemporaines, liées au problème de colonialisme dont on parlait hier, ou d'écologie dont on parlait aussi précédemment au bureau des dépositions. Comment est-ce qu'en fait ces œuvres-là maintenant elles peuvent être ressaisies et faire jurisprudence depuis nos pratiques, quoi.
Mais c'est différent parce que l'assemblée, c'est une assemblée d'usage. Et les co-auteurs, en l'occurrence vous, le bureau des dépositions, pouvez définir que ça fait partie de votre œuvre, puisque seuls les co-auteurs et co-autrices peuvent désigner les limites de leur œuvre. Par contre, nous, on peut se constituer en assemblée. Et si nous, on se considère aussi artistes et qu'on a envie de considérer que ça, c'est notre œuvre, de construire une assemblée, ça, c'est encore autre chose, je pense. Mais ce qui n'empêche pas à l'œuvre d'art de devenir pour, enfin, de faire des bébés, si je peux m'exprimer ainsi, puisque la méthodologie de co-autariat que vous avez mise en place, elle a déjà été récupérée par d'autres groupes qui s'en sont saisis et qui l'utilisent à leur fin et à leur manière aujourd'hui. Notamment le groupe à Saint-Just, par exemple.
Ouais. Il y a du boulot, hein. On arrête la séance. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Est-ce que vous voulez dire un mot pour finir, non? Ben, merci beaucoup. Et on se retrouve à quelle heure pour parler des contrats? Il est quelle heure?
Midi et demi.
À 14h30. Merci.
Merci.
Merci. Merci.